Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez tous les jours sur France Culture, une émission préparée ce matin par Luc Alazo et Margot Le Ridon, mais aussi Mélanie Chalandon et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Ludovic Auger. Dernier volet de notre série consacrée aux menaces que l'épidémie mondiale fait peser sur nos droits et nos libertés. Après avoir abordé la liberté de circulation, la liberté d'information et puis le sort réservé à nos données personnelles, nous allons parler ce matin du droit du travail. Le droit du travail sacrifié sur l'autel de la relance, c'est la question qu'on se pose ce matin.
D'abord, c'est un choc sur l'économie réelle. Et c'est sans doute ce qui fait la différence par rapport à la crise de 2008. Vous avez des secteurs entiers de notre économie qui sont impactés tout de suite, violemment, et qui n'ont pas de possibilité de réagir, puisque c'est leur chiffre d'affaires qui baisse brutalement en raison de la crise sanitaire.
Nous estimons que l'économie de la République fédérale d'Allemagne se réduira de 6,3% cette année. L'économie allemande a subi un choc externe et interne massif, des chocs qui touchent à la fois la demande et l'offre.
Nous travaillons sur le nouveau décret-loi consacré à la simplification administrative et bureaucratique qui introduira plusieurs nouveaux éléments afin de fournir à l'Italie un choc économique sans précédent, en particulier dans le secteur des infrastructures.
De la France à l'Italie, en passant par l'Allemagne, l'épidémie mondiale de Covid-19 a provoqué un ralentissement violent de l'économie, entraînant des dispositifs de chômage partiel dans le meilleur des cas, des licenciements secs pour les plus graves. Tout azimut, les entreprises sont à genoux et les caisses des États vidées par des programmes de relance massifs. La crainte dès lors, c'est que le retour de la croissance constitue une telle priorité que les conditions des travailleurs en fassent les frais et que le droit des travailleurs soit le grand perdant de la crise. Faut-il s'attendre à un grand mouvement général de dérégulation ? Le coronavirus aura-t-il raison du droit du travail ? Et d'ailleurs, comment a-t-il d'ores et déjà été transformé ? Le télétravail, en plein essor ces dernières semaines, deviendra-t-il la norme ? Et faut-il vraiment s'en réjouir ? Pour évoquer certaines de ces questions, enfin, entre autres ces questions-là, nous avons invité ce matin Pascal Lokiak. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Pascal Lokiak. Vous êtes professeur de droit à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale, et vous êtes co-auteur avec Dominique Méda et Eric Heyer de Une autre voie est possible, qui était paru chez Flammarion. Et justement, on a également avec nous l'un de vos co-auteurs, Eric Heyer. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE et vous êtes enseignant à Sciences Po. Donc je rappelle, vous avez participé à cet ouvrage que je viens de citer, Une autre voie est possible. D'abord, première question un peu générale et je vais commencer avec vous, Eric Heyer. Parce que intuitivement, on se dit que ce choc économique là qu'on entendait dans la voix du ministre français de l'économie, du ministre allemand de l'économie et puis de Giuseppe Conte, le chef du conseil italien, évidemment, ce choc économique, il est tellement fort que ça va être la priorité des priorités que de relancer la machine économique. Il faut la relancer à tout prix, y compris au prix peut-être de recul de la régulation et du droit du travail. Est-ce que ces craintes vous paraissent justifiées ? Est-ce que lorsqu'on regarde l'histoire des crises économiques, on voit que effectivement les tempêtes économiques conduisent à des désastres en termes de droits des travailleurs ? Ou c'est pas si évident que ça, Eric Heyer ?
Ah non, je crois que c'est pas si évident que ça. Au contraire, il y a pendant des périodes de grandes crises économiques, il faut voir que les conséquences des crises économiques, c'est une paupérisation d'un certain nombre de personnes et de salariés. Et donc justement, c'est souvent après les grandes crises économiques qu'on a au contraire créé des droits nouveaux, une sécurité sociale ou des droits nouveaux pour les salariés pour protéger ces salariés. Donc non, ça peut être au contraire l'occasion pour remettre l'État au milieu de tout cela, repenser une protection qui aujourd'hui est mise à mal. Donc non, c'est pas si évident. Je pense qu'aujourd'hui, Au contraire, on a, alors peut-être qu'on en reparlera, mais c'est un énorme choc de demande que l'on a aujourd'hui. C'est une consommation qui a été empêchée. Et aujourd'hui, si on veut qu'il y ait un rebond économique, alors après on peut se poser la question de quel type de rebond on souhaite, mais si on veut un rebond économique, il va falloir que les ménages aient confiance. Alors aient confiance dans le fait que la crise sanitaire soit derrière nous, aient confiance aussi sur le fait qu'ils ne vont pas perdre leur emploi pour ceux qui ont réussi à le garder. Donc ce n'est pas en flexibilisant et en précarisant que l'on va redonner cette confiance-là. Donc je ne suis pas sûr de cet aspect-là, mais il me semble qu'au contraire, pendant les périodes de crise, c'est à ce moment-là où on peut redéfinir un nouveau contrat social.
Pascal Lokiek, plus d'interventionnisme d'État, ça ne veut pas forcément dire plus de droits et plus de rigidité dans le marché du travail. Je vais prendre un exemple, vous allez répondre également à cette question, hein, Pascal Lokiek, mais je vais prendre un exemple très concret. Début mai, tout de suite après la crise, le Sénat adopte un amendement qui excluait la responsabilité des employeurs, mais aussi des élus locaux et des fonctionnaires, en cas de contamination d'un salarié par le Covid. Donc on a vu comment, chez les employeurs, alors même que le pays était encore confiné, il y a une sorte de réflexe pavlovien qui a consisté à essayer de se protéger d'éventuels manquements. Ce qui a évidemment pas manqué de faire bondir les syndicats. Mais on voit bien qu'il y a quand même ce risque d'adapter le droit pour que bien ça protège d'abord et avant tout les entreprises et pas forcément les travailleurs. Parce qu'il en va aussi de la responsabilité des entreprises que de s'assurer que la santé de leurs employés est bien garantie. Pascal Lokiek.
Oui, tout à fait. Vous avez raison. On a deux exemples. Le président du MEDEF avait annoncé vouloir une hausse du temps de travail en plein confinement pour la reprise. Et l'autre exemple, effectivement, c'est cet amendement du Sénat consistant à alléger la responsabilité des chefs d'entreprise. Alors, ceci étant dit, il a finalement pas été adopté. Et la mesure qui a été adoptée dans la loi est une sorte de mesure symbolique qui consiste à exiger du juge, lorsqu'il est confronté à un cas de responsabilité pénale de l'employeur, d'exiger de lui qu'il prenne en compte le contexte d'épidémie, ce qui est une évidence, il l'aurait fait de toute façon. Ce que je voudrais dire, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Eric hier, c'est qu'on est vraiment à un carrefour aujourd'hui. Alors, on peut aller dans deux directions. Première direction, une plus grande libéralisation, c'est ce qu'a fait l'Inde, hein. D'après les informations que j'ai vues un peu partout, comme tout le monde, l'Inde a quasiment éradiqué son droit du travail pour 3 ans. Donc 3 ans, c'est pas une mesure d'urgence, c'est quelque chose de pérenne. Donc
on peut considérer... Ça dépend des États, oui. Pascal Lokiek, ça dépend des États, c'est à géométrie variable, mais vous avez raison, globalement, il y a une compétition qui s'est jouée entre les différents États. On en parlait la semaine dernière, justement, avec Jean-Joseph Boileau, qui est économiste et un spécialiste de l'Inde. Vous avez raison.
D'accord, donc... Première direction, les entreprises sont en difficulté, et je le comprends tout à fait. Cette idée qu'on a depuis une dizaine d'années en France et un peu partout en Europe, que pour assouplir les règles, pour faciliter les embauches, il faut réformer le droit du travail. Donc là, on va aller vers plus de dérégulation. Et l'autre direction, qui est celle que je prône personnellement, c'est de dire... ce drame absolu qu'est le Covid-19 peut être finalement une occasion pour changer de voie, pour changer de route et se dire l'entreprise, c'est à la fois les actionnaires et les travailleurs. L'entreprise, elle ne fonctionne pas sans les travailleurs. Les objectifs sociaux et environnementaux, parce que ça, c'est absolument fondamental aussi, font marcher l'économie et les entreprises, et il va falloir changer de voie et donner la priorité à ces considérations sociales et environnementales. Et je crois qu'on peut pas dire aujourd'hui vers quelle voie on va s'orienter, mais on a une décision absolument fondamentale à prendre dans les semaines et mois qui viennent.
Eric Ayer, est-ce que vous êtes d'accord? Ce que j'entends dans le propos de Pascal Lokiek, c'est qu'il y a la nécessité d'associer davantage les travailleurs aux décisions. Au fond, il nous parle de codécision, ce dont on parle depuis des années. On loue souvent le modèle allemand, qui a été, c'est vrai, l'Allemagne, l'un des premiers pays à mettre en place des lois très importantes sur la codécision dès le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est aussi quelque chose qui marche plutôt pas mal dans les pays nordiques. Et souvent, on dit, il faut aller vers plus de codécision. Est-ce que vous avez le sentiment que, oui, cette crise pourrait nous permettre d'avancer encore sur ce chemin de la codécision? Il y a eu des choses qui ont été faites ces dernières années, mais on n'est pas encore dans ce qu'on pourrait espérer.
Non, alors on n'est pas du tout encore arrivé à ce niveau-là. Donc effectivement, il y a Il y a sans doute aujourd'hui des corps intermédiaires qui sont extrêmement faibles et effectivement une sorte de tension entre les syndicats de salariés et le patronat, et donc du coup ces tensions-là sont jamais bonnes pour l'économie. Aujourd'hui on va être dans des niveaux effectivement extrêmement compliqués où on va avoir des entreprises en grande difficulté avec également des pressions à une augmentation de salaire dans certains niveaux, et avec également des coûts qui vont être liés aux gestes barrières et à toutes ces décisions qu'il va falloir mettre pour sécuriser un peu le travail. Donc vous voyez que comment on s'en sort dans ce type de tension-là, alors que les entreprises ne peuvent pas aujourd'hui, n'ont pas énormément de marge de manœuvre pour augmenter ses salaires et faire face à ses coûts, c'est en négociant et en discutant avec ses salariés. C'est-à-dire que il va bien falloir qu'on rentre dans beaucoup plus de discussions, que les salariés comprennent ce que le patron veut dire et que le patron comprenne aussi les revendications salariales. Donc il va falloir effectivement que il y a une gestion bien plus sereine, et donc ça passe par des salariés qui sont dans des conseils d'administration, qui comprennent les enjeux et qu'ils arrivent aussi à discuter calmement avec les employeurs. Sinon, on va arriver à des tensions extrêmes, parce qu'aujourd'hui, plus qu'avant la crise, la situation des entreprises n'est pas bonne du tout et ne sera pas bonne pendant un certain nombre de moments, et donc il va falloir... Qu'on discute tous ensemble.
Mais alors, Pascal Lecoq, précisément pour discuter et pour apporter cette souplesse dont parle Éric Heyer, il faut peut-être déléguer en tout cas une partie de cette capacité de discussion aux entreprises. C'est-à-dire qu'il va falloir que les normes, les règles se construisent peut-être plus près, au plus proche du terrain, en tout cas davantage que c'est aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans cette délégation du droit le risque que précisément on aille vers plus de dérégulation ? Parce que quand vous avez moins d'État, c'est aussi le risque d'avoir des règles moins rigides et moins favorables aux travailleurs.
Alors tout à fait, il faut savoir que c'est un mouvement très fort du droit du travail, qui est un mouvement, je dirais, européen, et la Commission européenne l'avait d'ailleurs encouragé. C'est un mouvement de on appelle ça un peu en langage technique, de décentralisation de la production normative. Alors c'est un terme affreux, mais ce que ça veut dire, c'est que traditionnellement, le droit du travail, c'était la loi, l'État. Et d'ailleurs, comme vous le savez tous, on a un code du travail très épais en France. Et on a eu une tendance, les gouvernements des 10 dernières années ont accentué cette tendance, à déléguer à la négociation collective d'entreprise la charge de définir les règles. Donc c'est un mouvement très fort depuis 10 ans et qui est critiqué par certains, notamment parce que ça peut provoquer du dumping social. Alors est-ce que ça va se développer encore plus ? Ce qui est clair, c'est que les mesures d'urgence prises pour le Covid renforcent le poids de la négociation collective par rapport à la loi. Donc, par exemple, sur les congés payés, les entreprises ont des souplesses supplémentaires pendant la crise du Covid. Et ça se fait comment ? Ça se fait par accord d'entreprise. Devant le Parlement, en ce moment, on est en train de décider de possibilités de prolonger les CDD au-delà de ce que prévoient les règles actuelles. Et ça se fait comment ? Ça se fait par accord d'entreprise. Donc oui, effectivement, c'est un mouvement qui est amené à se développer. Et
quand vous parlez des CDD, pardon, qu'on soit bien clair, c'est-à-dire que je crois que le Code du travail aujourd'hui fait que quand vous renouvelez deux fois un CDD qui est identique en termes de tâches, de salaire, etc., il faut le CDIiser, c'est ça ?
Absolument.
Et donc on pourrait échapper à ce principe-là ?
Alors, on peut déjà y échapper largement par accord de branche.
D'accord.
Mais vous avez raison, c'est la règle. Mais sauf que on peut aujourd'hui y déroger par accord de branche, de manière assez large. Et les ordonnances, il est prévu que ce soit aussi possible par accord d'entreprise, donc, au niveau de chaque entreprise. Donc c'est un mouvement assez fort. Alors sur la question de mieux associer les salariés à la prise de décision, je crois aussi que c'est absolument fondamental, parce que on est en train de dire, c'est ce dont on discute à l'instant, que on donne de plus en plus de poids au dialogue social dans les entreprises. Mais dire qu'on donne davantage de poids aux accords d'entreprise, ça implique nécessairement que les salariés aient plus de pouvoir de décision dans l'entreprise. Sinon, le rapport de force est complètement déséquilibré. Et ce que je crois, c'est que mieux associer les salariés à la prise de décision, ça doit se faire d'abord au sommet, c'est-à-dire au niveau des instances de direction, mais aussi à la base. Et je crois que c'est un point important. Dans chaque unité de travail. Et ça concerne beaucoup les télétravailleurs. Vous savez, on parle beaucoup du droit à la déconnexion.
On va en parler, évidemment, en télétravail. Okay. Ça sera un de nos sujets, bien sûr.
D'accord, alors très bien.
Vous voulez poursuivre, je vous en prie.
Oui, alors donc voilà. Donc, pour poursuivre mon idée, je crois que au niveau de chaque unité de travail, on a besoin de développer des espaces de discussion. Mmh. On discute évidemment beaucoup des conditions de travail dans les instances de représentation du personnel, et on a besoin en plus de ça de développer des espaces de discussion sur le travail lui-même, sur la charge de travail, sur la conciliation vie privée-vie professionnelle, qui est un énorme problème que l'on voit très très fort en matière de avec le confinement. Donc je pense que pour mieux connecter les travailleurs à distance avec leur communauté de travail, il faut développer des outils qui sont notamment des outils numériques pour que la décision de recourir au télétravail, la décision des congés, etc., ce soit quelque chose de plus partagé, que ce soit pas simplement le manager qui décide lui-même dans son coin. Et c'est je crois, quelque chose que le droit doit accompagner. Donc, prise de décision partagée au sommet dans les instances de direction, mais je crois aussi dans chaque unité de travail de manière plus décentralisée.
On va aborder dans quelques instants cette question du télétravail qui est très importante, mais je voudrais vous entendre peut-être, Eric Heyer, sur cette question de la décentralisation du cadre normatif, parce que Pascal Lokiek nous dit qu'il y a d'abord que c'est une tendance lourde, ancienne, et qu'il y a évidemment toujours cette menace que ça soit défavorable aux travailleurs. Mais si on regarde du côté de l'Allemagne, précisément, on dit tout l'inverse, c'est-à-dire que du côté de l'Allemagne, on défend l'idée que cette décentralisation de la construction de la norme, c'est ce qui permet d'apporter de la souplesse, et c'est ce qui permet de mieux défendre les travailleurs. Alors pourquoi est-ce que chez nous en France, on pourrait pas aussi se dire que finalement cette décentralisation est bénéfique aux employés, aux travailleurs? Eric Heyer.
Non mais décentraliser peut être effectivement avoir de nombreux avantages, et effectivement le cas allemand est sans doute là pour nous le rappeler, mais c'est pas décentraliser coûte que coûte ou de n'importe quelle manière, c'est-à-dire que aujourd'hui, si vous décentralisez toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire sans avoir modifié le nombre de salariés dans les conseils d'administration ou dans les instances représentatives des entreprises, si vous n'avez pas augmenté le taux de syndicalisation par ailleurs, ça ne sert à rien. Donc, et au contraire, compte tenu du taux de chômage que l'on a en France, le rapport de force va être complètement inégal, et on peut effectivement, cette décentralisation sera sans doute synonyme de régression sociale et de dumping social. Donc attention, il y a aussi les conditions dans lesquelles on réalise cette décentralisation. Et donc il faut dans un premier temps commencer par améliorer la représentation des syndicats des salariés dans ces instances, et ensuite on pourra décentraliser, mais il ne faut pas faire le premier sans l'autre.
C'est la seule condition, vous en voyez d'autres ?
En fait, en tout cas, c'est une condition principale. Ensuite, bien entendu, si on devait arriver au plein emploi, ça serait aussi plus simple. Vous voyez, tant qu'on est dans un chômage qui est élevé, et malheureusement, ce chômage va fortement augmenter dans les prochains mois, je pense que la période dans laquelle on décentralise est aussi extrêmement importante. Aujourd'hui, le rapport de force est absolument pas en faveur des salariés. Et donc, décentraliser à ce moment-là serait sans doute une erreur. Au contraire, il va falloir accompagner cette décentralisation, mais l'accompagner.
Pascal Lokiek, vous êtes d'accord? Peut-être attendre un peu, sortir de cette conjoncture?
Non, je suis tout à fait d'accord. Il faut attendre un peu. Et l'Allemagne est finalement un bon exemple, parce que effectivement, l'Allemagne décentralise comme nous on fait, puisqu'ils ont ils ont beaucoup d'accords d'entreprises qui sont signés au sein de ce qu'ils appellent les Betriebsrat, qui sont des conseils d'établissement. C'est un peu l'équivalent de nos anciens comités d'entreprise. Mais l'Allemagne, justement, a un système de co-décision où les salariés ont quasiment le même poids que les représentants des actionnaires dans les instances de direction. Donc on a un système où effectivement on donne beaucoup de poids aux décisions dans l'entreprise, mais les décisions, elles sont partagées. Donc je crois qu'effectivement, si vous voulez, pour donner tout son sens au mouvement en France qui consiste à décentraliser vers l'entreprise, il faut arriver à réformer la gouvernance de nos entreprises pour arriver, peut-être pas à 50%, mais au moins à 30% de représentants des salariés dans les instances de direction.
Vous parlez des comités d'entreprise, hein, vous me tendez une perche, Pascal Lequec, le télétravail va attendre, c'est de votre faute. C'est vous qui me parlez de comités d'entreprise, parce qu'on parle ce matin de l'articulation entre santé et droit du travail. Pendant longtemps, en tout cas, il y avait une entité précisément qui incarnait vraiment cette articulation, c'est le CHSCT. C'était l'organisme chargé de la protection de la santé, de la sécurité des salariés dans les entreprises, dans les administrations publiques. À partir du moment où vous aviez un effectif de plus de 50 personnes, il fallait ce type d'entité. Sauf que depuis la réforme de 2017 du Code du travail, ces CHSCT, ils ont été supprimés par les ordonnances Macron et fusionnés justement avec les délégués du personnel et les fameux comités d'entreprise dont vous parliez dans une nouvelle instance, le comité social et économique. Est-ce que cette décision a été bonne pour les travailleurs, au regard de cette crise sanitaire majeure qu'on vient de vivre, ou est-ce qu'au contraire, ça s'est révélé peut-être néfaste pour la santé et la sécurité des salariés ? Pascal Lequec.
Alors, je pense tout à fait que ça n'était pas une bonne décision. Autant l'idée de fusionner le comité d'entreprise et les délégués du personnel, pourquoi pas, même si ça a posé un problème de proximité, parce que les délégués du personnel, qui ont donc disparu, étaient une instance de proximité dans les petites agences, dans les magasins, on les a plus. Par contre, la disparition du CHSCT, donc, comme vous l'avez très bien dit, et qui était une instance propre à la santé et la sécurité, c'est un vrai souci. Alors, on le voit pas encore, parce que, en ce moment, le remplaçant de ces trois instances, c'est le comité social et économique. Et donc, le comité social et économique, à partir de 300 salariés, hein, vous l'avez dit, avant c'était 50 salariés le CHSCT. Maintenant c'est 300 salariés. À partir de 300 salariés, le comité social et économique a une commission. Mais c'est simplement une commission. Donc on a remplacé ce qui était une véritable instance autonome, le CHSCT, par une simple commission du comité social et économique. Alors, pour l'instant, il faut être tout à fait honnête, dans pas mal d'entreprises, ça marche assez bien. C'est-à-dire que les comités socio-économiques sont mobilisés. Les commissions santé et sécurité le sont aussi, même si, bien sûr, on a d'énormes problèmes de communication, hein, comme nous tous. Hein. Faire une réunion je ne vais pas citer de publicité, mais par un dispositif de communication à distance, c'est pas du tout la même chose que le faire de manière en présentiel. Donc pour l'instant, on voit que bon, tant bien que mal, ça se réunit, même si on a des décisions de justice qui montrent que ça n'a pas été fait partout, loin de là. Non, ma vraie inquiétude, c'est aujourd'hui les questions de santé et sécurité, elles sont prégnantes. Donc on discute dans les entreprises et dans les comités des questions de santé et sécurité. Mais quand la reprise va arriver, en tout cas quand il va falloir reprendre, et quand les questions économiques vont arriver, et on va peut-être en parler, il va y avoir des restructurations massives, c'est-à-dire des licenciements, peut-être des plans de départ volontaires, et là les questions économiques vont devenir prégnantes, et moi ma crainte c'est que les questions de santé et sécurité là deviennent secondaires. Et là, par contre, le fait de ne pas avoir d'instance de spécifique à la santé et à la sécurité, c'est là, ma crainte, voilà, c'est que ça devienne secondaire. Or, on va avoir des bilans à faire, on va avoir des expertises à faire, parce que là, avec les délais qui ont été modifiés, l'expertise, quand il y a 11 jours pour faire une expertise, c'est trop court, mais ça va arriver après. Mmh. Hein, pour faire des bilans, des enquêtes, pour définir la stratégie sanitaire de l'entreprise, je pense qu'on va avoir un problème avec le fait qu'on a plus d'instances autonomes.
On va attendre un peu pour mesurer justement ces effets. Voilà. Pascal Lequec, on va prendre les choses dans l'ordre. J'avais parlé du télétravail. Parlons-en justement. Je vous propose d'abord d'écouter un chef d'entreprise qui évidemment a pris la mesure de la montée en puissance de cette pratique du télétravail et qui, lui, prédit qu'elle va encore monter en puissance après le Covid. C'est un certain Mark Zuckerberg.
Nous avons déjà dit aux gens que jusqu'en 2020, ils peuvent choisir de travailler chez eux et faire leur travail de manière productive. À l'issue de cette période, je pense que le travail à distance sera également une tendance croissante. Je pense que nous allons être l'entreprise la plus avant-gardiste en matière de travail à distance. Je pense qu'il est tout à fait possible qu'au cours des 5 à 10 prochaines années, environ 50% de notre personnel travaillera à distance.
Voilà, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, il y a quelques jours. Eric Heyer, on a vu hein, comment cette crise sanitaire avait poussé du jour au lendemain des millions de travailleurs dans le télétravail, pour le meilleur et pour le pire aussi, parce que c'est aussi une pratique qui derrière laquelle il y a un certain nombre de choses qui posent problème. On a parlé de la fracture numérique profonde. Il y a aussi la question de l'affaissement des barrières entre vie privée et vie professionnelle, qui sont si nécessaires au bon épanouissement des deux. Comment est-ce que vous voyez les choses, Eric Heyer? Jusqu'où est-ce que vous pensez que ce télétravail va se généraliser? Les opportunités et les risques de cette nouvelle manière de travailler?
Oui, vous avez raison. Enfin, je pense qu'effectivement, il y avait une tendance, alors très légère, au télétravail. Je pense que cette tendance va être un peu plus prononcée dans les mois et les années à venir. Alors, sur le papier, on a l'impression que c'est quand même super, le télétravail, dans la mesure où ça peut effectivement répondre à un grand nombre de problèmes économiques, et notamment des deux problèmes majeurs que sont le problème du logement et le problème d'appariement entre l'offre et la demande de travail. Et on avait coutume de dire qu'en gros, si on avait un chômage de masse, c'était en partie parce que l'offre était de travail était dans une région et la demande de l'autre, et qu'il y avait des problèmes de logement. Et donc, globalement, il était difficile de faire ces appariements. Avec le télétravail, vous levez toutes ces contraintes. Vous voyez, vous ne pouvez pas vous loger en centre-ville, là où il y a le travail, donc on était obligé de s'écarter. Ben, maintenant, ce n'est pas un problème de s'écarter de son lieu de travail. Il n'y a plus de problème de transport. Pour l'environnement, ça peut être aussi bénéfique. Donc, on a l'impression que ça coche à un peu toutes les cases, y compris la dernière, qui serait qu'aujourd'hui, les jeunes veulent beaucoup plus d'autonomie, pas forcément d'indépendance, et donc du coup, le télétravail pourrait amener cette autonomie. Donc là, on a l'impression que c'est parfait. Mais vous l'avez un peu signalé, il y a tout de même beaucoup d'inégalités dans ce télétravail, et ce moment de confinement nous l'a bien indiqué, c'est-à-dire que le télétravail, tout le monde n'a pas accès à ce télétravail. D'abord, il y a un certain nombre de métiers, qu'on appelle les métiers qui étaient en première ligne, qui ne pouvaient pas télétravailler, donc on les a considérés comme des héros, parce qu'ils devaient aller, travailler, et pas rester chez eux, confinés. Mais c'était des héros malgré eux, tout de même. On leur a pas donné le choix, quelque part, que de le faire. Et ils n'auront pas plus le choix demain de le faire. Donc, il y a une grande inégalité de ce point de vue-là. Et on s'aperçoit, d'un point de vue de la rémunération salariale, que globalement, ceux qui télétravaillent sont majoritairement ceux qui ont des salaires assez élevés. Donc, on va, me semble-t-il, encore amplifier ces inégalités entre ceux qui auront potentiellement la chance de choisir entre le télétravail ou aller en présentiel et ceux qui n'auront pas le choix. On voit bien aussi, d'un point de vue purement économique, que les grandes innovations et les grandes résolutions de défis ont été réalisées en présentiel et pas en télétravail. C'est-à-dire que c'est quand même encore important de se retrouver, de discuter et en présentiel plus qu'en télétravail, et que globalement, la productivité, même si de temps en temps on fait beaucoup de réunions quand on est au travail, la productivité est quand même meilleure quand on est en présentiel. Donc attention, moi je pense que oui, il va falloir qu'on utilise beaucoup plus le télétravail, notamment dans ces réunions qu'on réalise à l'international, et donc que l'on prenne un avion pour une réunion d'une heure. Ça, c'est complètement stupide, et ce moment de confinement nous l'a bien indiqué, qu'on pouvait faire effectivement aussi bien en restant chacun chez soi, et donc d'un point de vue environnemental, ça va être une grande avancée. Mais attention au développement et au fait que les entreprises, pour faire des gains en termes de logement d'entreprise, mettent le plus possible en télétravail, quitte à ce que vous avez dit, à augmenter le temps de travail, puisque vous voyez, quand vous êtes chez vous, vous ne réfléchissez plus au temps de travail.
Pascal Lokiek, il y a un mot qu'a utilisé Eric Heyer, c'est la question du choix. Est-ce qu'on peut choisir? Jusqu'où est-ce qu'on peut choisir? Vous êtes juriste, est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les règles qui existent aujourd'hui s'agissant du télétravail? Est-ce que, par exemple, on peut imposer à un salarié de se mettre en télétravail? Est-ce que, à l'inverse, un salarié a le droit, sous certaines conditions, d'en bénéficier? J'ai pas trop d'idées, je sais pas comment ça fonctionne, et puis ensuite on verra ce qui vous semble peut-être intéressant d'imaginer en termes d'évolution sur ce point-là. Pascal Lokiek.
Alors, aujourd'hui, à part les circonstances exceptionnelles qui d'ailleurs étaient prévues dans les textes, il n'y a pas de droit au télétravail. En fait, il faut, pour qu'il y ait un télétravail, il faut qu'il y ait soit un accord collectif qui le prévoit, soit, à défaut d'accord collectif, ça peut être une charte définie par l'employeur. Dans ce cas-là, c'est à l'employeur de décider s'il met en place ou pas le télétravail. Et à défaut encore, il y a la possibilité de prévoir par accord individuel entre le salarié et l'employeur la possibilité de télétravailler. Alors, ceci étant dit, et ça a bougé en 2017, lorsque le salarié fait cette demande, l'employeur ne peut s'y opposer que s'il a un motif raisonnable de s'y opposer. Mais en tout cas...
C'est subjectif, donc j'entends. Motif raisonnable...
Oui, c'est assez subjectif. Mais en tout cas, il n'y a pas, ce droit. En principe, ça se fait par on va dire, c'est généralement concerté.
Alors, et vous pensez qu'il faut changer le cadre? Il faut imaginer un autre cadre, un nouveau cadre?
Le télétravail impératif, non. Je suis pas favorable. On est passé à un télétravail, on va dire, facultatif, à un télétravail impératif. Non, je comprends tout à fait qu'on le rende obligatoire, que ce soit côté salarié ou côté employeur aujourd'hui, mais non, je suis pas favorable. Ce qui me semble en revanche nécessaire, parce que Eric hier l'a dit, il y a des points qui sont très positifs sur le télétravail. Effectivement, ça favorise la vie personnelle des salariés, avec quand même des bémols. Hein. Moi, je vois ça avec mes étudiants, quand je leur ai indiqué qu'ils allaient faire une soutenance de mémoire, mais ça serait pareil pour les salariés. Hein. Certains m'ont dit, et je les comprends tout à fait, mais ça va être compliqué pour moi, parce que j'ai des enfants autour de moi, il y a beaucoup de personnes autour de moi, donc effectivement, Eric l'a dit, hein, il y a une première chose qui est importante, c'est ne pas croire que la maison, son appartement, c'est un lieu de travail idéal. Non, ça n'est pas un lieu de travail idéal. Et d'ailleurs, si on devait généraliser le télétravail, il faudrait, et certains syndicats l'ont dit d'ailleurs, que l'entreprise mette à disposition des lieux communs, des lieux communs de coworking, pour que ce soit pas forcément uniquement la maison. Ensuite,
Le coworking, ouais, en période de crise sanitaire où il faut respecter les distances, les gestes barrières, attention, ça devient problématique.
Mais là, on est en train. Là, je parle plutôt si on devait le généraliser à l'avenir en dehors de la crise.
On voit que tout s'entrechoque. Hein.
Absolument. Ah, non, absolument. Évidemment, c'est pas du tout là. Mais quand on n'aura plus, espérons que ça arrive bientôt, quand on n'aura plus les problèmes de contamination, il faut pas penser que voilà l'isolement. L'isolement, c'est absolument l'idéal. L'isolement, on le voit dès maintenant. Hein. L'isolement est un facteur de stress et de risques psychosociaux pour les salariés. On va avoir un gros problème, et ce sera d'ailleurs l'un des sujets de débat dans les entreprises sur la santé et la sécurité. On a des salariés qui ont subi un traumatisme, outre lié à l'inquiétude de la maladie, lié aussi à l'isolement vis-à-vis de la collectivité de travail. C'est très très important.
Eric, hier, encore un élément, et puis ensuite on va accueillir un nouvel invité, on va prendre la direction de l'Italie, mais on parle de droit du travail, il faut parler de temps de travail. Il y a un certain nombre de voix qui appellent à augmenter ce temps de travail, à assouplir les quelques verrous, disons, qui l'encadrent. Je suis tombé par exemple hier sur une note de l'Institut Montaigne produite par l'économiste Bertrand Martineau. Et il propose toute une série de pistes, relever provisoirement les seuils maximums dans certains secteurs en tension, proposer aux fonctionnaires de certains secteurs d'accroître leur durée de travail contre une revalorisation salariale, supprimer le jeudi de l'Ascension comme jour férié, diminuer le nombre de RTT dans la fonction publique, tout ça évidemment de façon temporaire. Est-ce que vous pensez qu'effectivement il va falloir toucher aux paramètres temps de travail pour sortir de la crise? Vous disiez tout à l'heure, il faut d'abord sortir de la crise. Et quel est le risque que le temporaire devienne évidemment durable, Eric Ayer?
Oui, alors aujourd'hui, il est, à mon sens, absolument pas opportun d'augmenter le temps de travail. Vous voyez, au contraire, aujourd'hui, on le réduit, le temps de travail. On fait du chômage partiel. Le chômage partiel, c'est de la réduction du temps de travail. Hein.
Non, mais ça, c'est maintenant. Très vite, il va falloir reprendre.
Alors, après, il va falloir reprendre. Mais vous voyez, il va falloir, encore une fois, savoir comment on va reprendre et à quel rythme ça va reprendre. Donc, aujourd'hui, en tout cas, les entreprises n'ont pas de problème de temps de travail. Elles ont un problème de carnet de commandes. Donc, aujourd'hui, c'est absolument inutile d'augmenter le temps de travail. Si on devait le faire aujourd'hui, une augmentation, ça augmenterait le chômage, puisque globalement, elles sont contraintes aujourd'hui par la demande, pas par l'offre. Et donc, aujourd'hui, ça sert strictement à rien. Alors, imaginons maintenant un cas de figure où la consommation reparte très vite dans les prochains mois parce que, globalement, pendant cette période de confinement, il faut le rappeler, il y a eu une épargne forcée, une consommation empêchée, on l'évalue à l'OFCE, de 55 milliards. Donc, imaginons une situation idéale où non seulement tout le monde reprend sa consommation normale et, en plus, consomme tout ce qu'on a épargné, ces 55 milliards. Et puisque cette consommation, en plus, n'ira pas forcément de façon homogène dans tous les secteurs, il est possible que certains secteurs aient une énorme demande d'un coup et qu'elle soit du coup contrainte pour ce coup par l'offre. Mais voyez, alors là, dans ce cas de figure, on pourra toujours réfléchir à est-ce que ponctuellement, on ne peut pas augmenter le quota d'heures supplémentaires un tout petit peu flexibiliser pour que effectivement ils puissent répondre à cette demande. Mais voyez, on sera dans un cas extrêmement d'abord optimiste, c'est-à-dire que globalement tout revient à la normale rapidement et qu'on consomme d'un coup les 55 milliards que l'on a épargnés, et ça va toucher potentiellement quelques entreprises. Donc, moi, il me semble qu'aujourd'hui, il ne faut absolument pas réfléchir à cela. Il faut d'abord sortir de cette crise économique, ne pas rajouter du chômage au chômage en augmentant le temps de travail.
On n'y est pas encore.
Après, de toute manière, il y a l'annualisation du temps de travail qui est à la disposition et il y a les heures supplémentaires. On peut ponctuellement augmenter le contingent si les employeurs en demandent, mais je pense qu'on peut déjà aujourd'hui faire des demandes d'augmentation de ce quota d'heures supplémentaires.
On est avec vous, Eric Ayer, et vous, Pascal Lokiek, dans cette semaine consacrée aux droits et libertés au temps du corona. On parle aujourd'hui du droit du travail. On va prendre la direction de l'Italie, où on a fait le choix de régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Da oggi, per la scelta che ha fatto questo governo, gli invisibili saranno meno invisibili.
À partir d'aujourd'hui, et grâce au choix fait par ce gouvernement, les invisibles seront moins invisibles. Ceux qui ont été brutalement exploités dans les campagnes ou même dans les fausses coopératives où des personnes ont été prêtées pour travailler dans des familles, pour travailler comme aides-soignants ou comme domestiques, ces personnes-là ne seront pas invisibles parce qu'elles auront accès à un permis de séjour pour travailler et nous les aiderons à retrouver leur identité et leur dignité parce que nous avons fait un choix clair.
Voilà, la ministre de l'Agriculture italienne, Teresa Bellanova, au bord des larmes, qui, il y a quelques jours, le 13 mai, exposait donc ce décret qui a été adopté et qui vise à régulariser temporairement des travailleurs clandestins du secteur agricole. On va retrouver justement, depuis l'Italie, Ferruccio Pastore. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes directeur du Forum international et européen de recherche sur l'immigration de Turin. Il y a un certain nombre de voix qui, évidemment, appelaient depuis longtemps à la régularisation de ces migrants. Et ces mêmes voix, justement, aujourd'hui, il semble que, en tout cas certaines, dénoncent cette régularisation temporaire et assez limitée, parlent d'une immigration jetable. Quelle est votre position à vous, Ferruccio Pastore, et quel regard vous portez sur cette régularisation? C'est une bonne chose?
C'est une bonne chose, c'est une mesure bienvenue, mais effectivement insuffisante, parce que c'est une régularisation très sélective. Elle touche seulement à certains secteurs économiques, l'agriculture, la pêche, les soins à la personne, le travail domestique, comme vous disiez, en excluant, sans des raisons économiques claires, d'autres secteurs importants où le travail régulier italien et immigré est important, comme par exemple la restauration ou les constructions. Et ensuite, c'est une mesure très à court terme, c'est-à-dire, tandis que dans le passé, on a une longue tradition de régularisation en Italie, c'était des régularisations qui donnaient une relative stabilité aux travailleurs, avec des permis, par exemple, d'un an ou deux ans, qu'on octroyait à travers la régularisation. Là, c'est six mois, c'est-à-dire on a vraiment l'impression d'une régularisation entraînée par la demande de travail, c'est-à-dire par les pénuries engendrées par les restrictions à la mobilité internationale à cause du virus.
Oui, pour vous, c'est surtout
répondre à un besoin aigu, ouais. Pas plus que ça.
Pour vous, finalement, c'est d'abord et avant tout répondre à cette vive demande des exploitants agricoles dont les récoltes étaient menacées. C'est d'abord et avant tout ça. Vous parliez d'une histoire ancienne de la régularisation. Effectivement, il faut peut-être rappeler qu'en Italie, c'est pas la première fois qu'on a une décision de ce genre. Il y en avait une en 2012, même 10 ans plus tôt, en 2002, lorsque c'était le gouvernement de Berlusconi. On avait eu quasiment 700 000 régularisations, donc on voit bien que quel que soit le positionnement idéologique du gouvernement, on peut avoir parfois, quand l'économie le nécessite, eh bien ce type de régularisation. Vous nous expliquez en quelques mots, Ferruccio Pastore, comment ça va se passer très concrètement, ces procédures de régularisation? Qui demande? Les employeurs, les travailleurs?
Et c'est les deux. C'est pour la première fois, je crois, dans l'histoire, comme vous disiez, longue de régularisation italienne, une régularisation qui suit un double canal, c'est-à-dire il y a la possibilité d'une immersion, comme dit le décret, du rapport de travail à la demande de l'employeur, c'est-à-dire il y a déjà un rapport de travail irrégulier, l'employeur, qui est bien sûr exposé à la menace de sanctions, peut régulariser ces travailleurs italiens et immigrés d'ailleurs, étrangers. Mais il y a aussi un deuxième canal qui va être probablement plus utilisé par les immigrés, c'est-à-dire à la demande du travailleur et là aussi il y a une restriction importante, c'est-à-dire ça doit être des travailleurs qui sont déjà connus par l'administration, qui avaient un permis de séjour qui est expiré dans les derniers mois, et qui peuvent rentrer dans la régularité en faisant demande et en ce cas, ils auront un permis de séjour pour une recherche de travail. Mmh. Recherche de travail qui, dans la situation actuelle du marché du travail, qui est bien sûr complètement meurtri par la crise, sera très difficile. Il sera difficile pour un travailleur régularisé de cette façon de trouver un travail pour ensuite avoir confirmé son permis de séjour dans les prochains 6 mois.
Alors là, Ferruccio Pastore, il faut peut-être introduire une nouvelle figure qui est importante quand on parle justement de ces travailleurs étrangers, irréguliers, et en particulier dans le secteur de l'agriculture, c'est les intermédiaires. Alors en Italie, on appelle les caporalato, qui sont en réalité les personnes qui organisent l'acheminement de ces migrants dans le secteur de l'agriculture. Alors là, il y a deux possibilités, c'est-à-dire que soit cette régularisation va avoir pour effet de fragiliser précisément ces intermédiaires qui par ailleurs piétinent assez allègrement le droit, on est quasiment dans un système mafieux. Donc soit ça fragilise ces intermédiaires et tant mieux, soit au contraire ça pourrait les renforcer puisque de toute façon la main d'œuvre qu'ils gèrent précisément se retrouve régularisée et donc c'est tout bénéfice pour eux. Vous vous situez où, Ferruccio Pastore, parce que la ministre de l'Agriculture, elle dit que l'État va se montrer plus fort, justement, que ces intermédiaires crapuleux. Vous y croyez?
Je crois que, sans doute, un travailleur régulier, même si pour une période limitée, et avec la possibilité de stabiliser sa position, est moins exposé à l'exploitation par les intermédiaires illégaux que s'il n'avait pas un permis. Je veux dire, les caporali, c'est des intermédiaires illégaux qui recrutent à la journée, normalement. Et la menace de dénoncer le travailleur aux autorités en n'ayant pas un permis, etc., est toujours très très forte et peut conduire à des situations d'exploitation incroyables, y compris le paiement réduit par rapport aux accords et des situations de ce genre. Donc je crois que, on doit reconnaître que c'est une mesure qui affaiblit le pouvoir contractuel des intermédiaires. Le problème est que c'est pas une mesure structurelle, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles dans des grandes parties du territoire national, pas seulement dans le sud, une stabilisation structurelle de la main-d'œuvre n'a pas eu lieu, sont toujours là et ne sont pas dépassés par cette mesure qui est une mesure d'émergence.
Oui, donc vous voulez dire que dans 6 mois, quand justement cette régularisation temporaire sera terminée, arrivera à expiration, ces caporali vont retrouver du service et retrouver leur place, puisque justement le droit du travail aura disparu pour tous ces travailleurs.
Oui, ouais. C'est un risque. C'est un risque. Les situations de d'exploitation à travers le modèle du caporalato ont eu lieu pendant des années, disons, à la connaissance de tout le monde. C'était à la lumière du soleil. C'était pas clandestin et inconnu. Il y a eu des dizaines et des dizaines de rapports, de scoops de journalistes, et tout le monde sait où sont les villages, les bidonvilles des travailleurs. Donc c'est une question de volonté politique beaucoup plus profonde que non une simple régularisation temporaire.
Merci beaucoup en tout cas Ferruccio Pastore d'avoir été avec nous ce matin en direct de Rome. Je rappelle que vous êtes directeur du Forum international et européen de recherche sur l'immigration de Turin. Retour en France mais en réalité dans l'ensemble du monde, puisqu'on va parler d'Amazon, qui est une multinationale qui évidemment est présente absolument partout. Mais regardons déjà ce qui s'est passé ces dernières semaines du côté des sites français.
On n'a aucun matériel pour aujourd'hui se mettre en sécurité, à part des lingettes pour nettoyer les chariots. Et encore, les chariots ne sont même pas nettoyés à chaque fois qu'un chariot est plein à la fin du pic.
Même s'ils disent qu'on est éparpillé sur le site, on est amené à se croiser, notamment dans les vestiaires, et il n'y a pas un mètre, et tout le monde touche les vestiaires sans gants, sans rien. Donc là, possibilité de propager le virus, c'est déjà de l'avoir emmené. Et puis, quand on ressort, comme on a croisé beaucoup de personnes, on est susceptible aussi de contaminer nos familles.
Voilà, donc 2 témoignages de travailleurs du site de Montélimar, 2 témoignages recueillis au micro de France 3. On va regarder ce que ces reproches formulés à l'égard du géant américain nous disent sur le dialogue social, sur les conditions de travail dans les sites et peut-être voir si le Covid pourrait apporter des évolutions en la matière. Bonjour Benoît Berthelot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, notamment au magazine Capital, et vous avez écrit Le Monde selon Amazon, qui était le résultat d'une longue enquête parue aux éditions du Cherche Midi. D'abord, peut-être, il faut revenir sur cette décision de justice qui a demandé à Amazon de prendre un certain nombre de mesures pour protéger ses salariés. Et suite à cela, Amazon a décidé en réalité de fermer précisément ces sites, alors que la justice ne lui demandait pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Benoît Berthelot? Est-ce que le dialogue social est à ce point impossible entre les employés d'Amazon et leur direction que lorsque on n'est pas d'accord, on ferme tout, on arrête tout?
Ce qui s'est passé, effectivement, c'est le résultat d'un très mauvais dialogue social chez Amazon. Et cette décision de justice en a été l'acmé. Mais un mois auparavant, déjà, les syndicats alertaient sur les conditions de travail dans les entrepôts. On a entendu des témoignages de salariés, c'est-à-dire promiscuité sur les sites, les navettes, par exemple, qui conduisent beaucoup d'intérimaires dans les entrepôts, qui étaient évidemment en pleine. Il n'y avait pas à ce stade-là de masques ou ni suffisamment de gel hydroalcoolique, comme dans beaucoup d'autres entreprises d'ailleurs. Mais Amazon a décidé de continuer l'activité à ce moment-là, alors que le syndicat demandait une suspension de l'activité ou au moins une réduction du nombre de salariés présents dans les entrepôts. C'est des entrepôts où il y a des centaines de personnes qui travaillent en simultané et qui se croisent quand les équipes de travail échangent leurs postes. Et effectivement, il n'y a pas eu de dialogue à ce moment-là. Il y a eu des plaintes du coup, des syndicats auprès de qui ont fait appel à la médecine du travail. L'inspection du travail a fait des mises en demeure après inspection sur 5 entrepôts Amazon sur 6. Des ministres ont fait des alertes, mais finalement une plainte du syndicat solidaire qui a abouti en justice, et la justice qui a demandé à Amazon, donc effectivement de fermer les entrepôts, mais de réduire l'activité à la simple livraison des produits essentiels, donc des produits d'alimentation, d'hygiène ou médicaux.
Alors, Benoît Berthelot, on vous entend très très mal. On va tout simplement refaire une ligne pour qu'elle soit plus propre et que les auditeurs puissent mieux vous entendre. Je vais donc faire réagir Pascal Lokiek et Eric Heyer autour de ce sujet qui est un sujet important parce que l'autre sujet qui est lié à ces géants et aux travailleurs qu'ils sollicitent, c'est tous ces travailleurs des plateformes dont on n'a pas encore parlé, Eric Heyer et Pascal Lokiek. On a très souvent évoqué la question des droits du travail pour tous ces chauffeurs privés, pour ces transporteurs, pour ces livreurs à vélo qui, pendant le Covid, ont continué à sillonner nos rues. Eux ne se sont pas arrêtés. Est-ce que, Pascal Lokiek, on peut espérer des évolutions en termes de droits pour ce type d'employés?
Alors oui, on peut d'autant plus l'espérer que juste avant l'arrivée de l'épidémie avait été adoptée la loi d'orientation des mobilités qui était justement sur la protection des travailleurs économiquement dépendants. Alors peut-être j'y reviendrai en deux secondes. Ce qui a été adopté est à mon avis beaucoup trop faible. Mais effectivement, en fait, la problématique c'est la suivante, c'est que en France, et c'est pas le cas dans d'autres pays, hein, c'est pas le cas en Italie, c'est pas le cas en Angleterre, on fonctionne avec uniquement deux faces. On a le salariat d'un côté et le travail indépendant de l'autre. Des pays comme l'Italie ou l'Angleterre ont reconnu une troisième catégorie qui sont les travailleurs économiquement dépendants. Nous, on n'a pas cette catégorie. Et la plupart des travailleurs des plateformes, ce sont des travailleurs économiquement dépendants, c'est-à-dire qu'ils dépendent pour gagner leur vie, voire pour faire vivre leur famille, de la plateforme. Pourtant, ils ne sont pas protégés par le droit du travail. Et donc, un enjeu absolument essentiel, et le Covid l'a montré, vous l'avez dit, et le reportage l'a dit, et M. Berthelot l'a dit aussi, c'est de donner des protections à ces travailleurs économiquement dépendants, qui sont beaucoup les travailleurs des plateformes.
En Italie, par exemple, ça leur donne quel type de droit?
Alors, en Italie, ça leur donne une protection contre la
catégorie.
Voilà, on appelle ça les parasubordonnés. Par exemple, des protections contre la rupture, qui sont pas les mêmes que le licenciement, qui sont plus faibles, ou encore un salaire minimum qui ne sera pas le même. Vous voyez, donc c'est une sorte de catégorie intermédiaire. Donc c'est pas forcément idéal non plus, parce qu'on a eu un mouvement en Italie de basculement de salariés vers cette troisième catégorie. Forcément, il y a une tentation des entreprises de faire basculer. Mais en tout cas, aujourd'hui, au jour où on parle, il y a un texte qui a été partiellement censuré par le Conseil constitutionnel qui prévoit la possibilité pour les plateformes de définir d'adopter des chartes. Une charte, c'est pas assez parce que, un, c'est facultatif, et deux, c'est établi unilatéralement par la plateforme. Et donc voilà.
On va retrouver, ça y est, on a rétabli la liaison avec Benoît Berthelot. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui, ça y est, je vous entends et beaucoup mieux semble-t-il. Alors, je vais avancer un tout petit peu parce que on a un petit peu échangé avec Pascal Lokiek. Je vais donner aussi la parole tout à l'heure à Eric Heyer, mais je parlais de ces fermetures d'entrepôts. C'est vrai que quand on fait un peu le bilan de cette séquence, on a Amazon qui décide de fermer ses entrepôts français alors que la justice lui avait pas demandé. On imagine qu'il y a aussi à travers ce geste le désir de passer un message selon lequel, au fond, l'entreprise peut tout à fait se passer des sites français, utiliser des sites ailleurs et peut donc de facto échapper aux droits du travail français. Il n'empêche qu'à l'arrivée, Amazon doit fermer ses sites, que l'affrontement avec l'État français est tel que, eh bien, quand elle fait la demande de chômage partiel, ça lui est refusé pour des raisons, par ailleurs, tout à fait justifiées. Hein. Il y a un certain nombre de critères et visiblement, Amazon ne répondait pas à ces critères, donc ça lui a été refusé. Il n'empêche qu'à la fin des fins, est-ce qu'il n'y a pas un moment où Amazon va se dire qu'il va changer, il va falloir changer un certain nombre de choses en termes de droit du travail, de dialogue social, pour sortir de cette crise un peu permanente à laquelle elle est confrontée depuis des années, Benoît Berthelot?
Oui, je pense que ça va être une nécessité pour eux. Effectivement, les syndicats ont parfois été divisés chez Amazon. Là, en l'occurrence, ils se sont tous regroupés lors de l'appel à Versailles pour dire qu'ils étaient unis pour faire entendre leur voix. Et la sortie de crise n'a pu être possible qu'en remuant le dialogue avec les syndicats. Donc effectivement, on part de loin, on part d'une longue culture antisyndicale chez Amazon qui existait dès les débuts de l'entreprise, qui a été théorisée par Jeff Bezos. On voit effectivement des formations pour les managers qui visent à repérer les mouvements syndicaux qui pourraient se créer. On a de nombreux cas de licenciements de leaders syndicaux aux États-Unis notamment. Et effectivement, Amazon voit que c'est pas une situation qui est profitable. Donc là, il a fallu effectivement en passer par un dialogue avec les syndicats pour reprendre tout simplement l'activité, qui reprend doucement, avec des droits pour l'instant qui sont bons hein, pour les salariés. Ils ont été en fait payés à 100% pendant cette période de chômage partiel, qui n'était pas donc pris en charge par l'État mais par Amazon. Il y a eu des revalorisations des salaires de 2 euros de l'heure pour ceux qui sont volontaires à reprendre le travail. Également, les salariés ne sont plus fliqués, si je puis dire, par leur scanner, hein, dans les entrepôts en ce moment, puisqu'évidemment, ils ne peuvent pas travailler aussi vite que d'habitude. Donc, ils ont une moindre pression pour l'instant. Évidemment, les syndicats craignent un retour de bâton, parce qu'Amazon est une entreprise qui, dans ses racines, veut sans cesse améliorer sa production.
Oui, mais peut-être que justement, ces racines sont en train de se transformer. Il y a eu un signe quand même il y a quelques semaines intéressant. C'est la démission de Tim Bray, qui était le vice-président d'Amazon Web Services, qui a démissionné pour dénoncer précisément le licenciement d'employés qui protestaient contre le manque de mesures prises pour les protéger contre les risques sanitaires. Il a même cité l'exemple français dans sa lettre de démission. Il s'est félicité des décisions de la justice française. Est-ce qu'il faut l'interpréter comme étant, sinon une transformation de la direction, au moins des fractures interne réel au sein de la firme?
Oui, il y a des fractures internes, comme il peut y en avoir d'ailleurs chez Google ou Facebook de temps en temps, avec des salariés qui prennent la parole. La différence, c'est que chez Amazon, effectivement, ces salariés qui prennent la parole doivent le faire au moment où ils démissionnent. Tim Bray, en l'occurrence, dont vous parlez, a fait des alertes en interne chez Amazon avant de poser sa démission et là de prendre la parole. Un certain nombre de salariés qui ont pris la parole ont été licenciés, ce qu'a dénoncé d'ailleurs le président. Donc le rapport reste tendu. On peut craindre aussi que la logique à venir, mais elle était déjà présente chez Amazon, c'est une automatisation encore plus accrue des entrepôts. Amazon prévoit d'automatiser complètement des entrepôts d'ici à 10 ans. C'est un horizon finalement assez proche. La productivité reste excellente.
Oui, bien sûr. Et puis on peut d'autant plus le craindre qu'en réalité, ce qu'a montré la crise sanitaire, c'est que ce modèle-là fonctionne. Il a été considérablement renforcé. Pendant que les petits commerces étaient forcés à la fermeture et au confinement, Amazon, lui, justement, continuait de livrer ses clients un peu partout, y compris d'ailleurs quand les sites des territoires en question sont fermés. Éric Ayer, peut-être un tout dernier mot sur cette question d'Amazon et toutes les questions afférentes à tout cela. On est presque au terme de cette émission, mais je vous en prie, réaction en guise de conclusion. Éric Ayer.
Non, mais je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Donc peut-être que ce que je pourrais rajouter sur ces grandes entreprises du numérique, et Amazon fait partie, c'est que il faut bien avoir conscience du poids de ces entreprises-là d'un point de vue économique. Vous voyez, si je prends les cinq grosses entreprises du numérique, hein, ce qu'on appelle les GAFA, leur capitalisation boursière, elle est identique à toutes les entreprises, à la capitalisation boursière de toutes les entreprises européennes. Donc je ne sais pas si on se rend bien compte de la puissance de ces entreprises-là. Et donc ces entreprises-là peuvent se considérer un peu au-dessus des États. Et on le voit bien dans leur façon de contourner l'imposition, on le voit bien aussi dans la façon aussi de potentiellement contourner la justice, enfin en tout cas de jouer avec les lois.
Et la crise sanitaire les conforte dans cette posture.
Et bien entendu, et ce poids-là, et on voit que au cours de ce confinement, eux n'ont pas perdu, ou en tout cas la différence avec une entreprise traditionnelle a été renforcée. Donc globalement, aujourd'hui, elles peuvent se considérer au-dessus des lois, au-dessus des États, parce qu'elles sont plus puissantes économiquement que les États, et donc il faut justement les rappeler à l'ordre. Et là, on peut aussi voir la décision d'hier, en tout cas la proposition d'hier de la présidente de la Commission européenne de mettre en place une taxation du numérique. Et ça serait assez intéressant de ce point de vue-là.
Eh bien justement, Éric Ayer, on en parlera parce qu'effectivement, la commissaire européenne La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, a annoncé un énorme plan de 750 milliards. On regardera lundi si ce plan est un plan vert, s'il va répondre aux défis climatiques, environnementaux qui sont les nôtres. Mais ça, ça sera pour lundi. Merci beaucoup, Eric Heyer et Pascal Lequec, d'avoir été avec nous ce matin. Merci également à Benoît Berthelot, qui est avec nous par téléphone. Eric Heyer et Pascal Lequec, je rappelle que vous avez écrit ensemble avec Dominique Méda « Une autre voie est possible », c'était chez Flammarion. Et quant à vous, Benoît Berthelot, je rappelle pour les auditeurs « Le Monde selon Amazon » qui a été publié aux éditions du Cherche Midi l'année dernière. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.